parti. Bon ben, pour ma part, je vais vous rétablir un petit éclairage sur les rapaces de la cathédrale. Alors, je vous avais laissé précédemment, donc l'année dernière, et je vous remercie de me renouveler votre confiance, sur les bâtisseurs de la cathédrale et les pierres de la cathédrale. Je vais donc développer un petit peu avec vous, cette fois-ci, certains habitants de la cathédrale, à savoir donc des oiseaux. Je n'aime pas tellement le terme de rapace, que je trouve un peu péjoratif. Donc, je les nommerai suivant leur nom et qualité. Mais j'essaierai de développer donc, les rapaces à la cathédrale, à la fois dans le bestiaire sculpté, dans les vitraux, et puis aussi, il y a des rapaces qui vivent à la cathédrale avec toutes leurs plumes. Donc on va essayer d'associer tout ça. Par contre, au risque de vous décevoir, je fais l'impasse sur ce qui vous apparaîtrait peut-être le plus évident si on essaye de trouver des rapaces à la cathédrale, c'est-à-dire les gargouilles. Mais les griffons ne sont pas à proprement parler des oiseaux, ce sont des hybrides entre un lion et un aigle. Et la notion de monstre et d'hybride au Moyen-Âge mériterait en soi un exposé, ce serait donc un peu compliqué de tout faire à la fois. Donc j'en reviens aux rapaces, et peut-être que lorsqu'on rentre à la cathédrale, le plus évident à voir, eh bien, c'est l'aigle de Saint Jean l'Évangéliste, que voici, que voilà, qui est donc au portail des années 1160, pour autant que la datation soit correcte, donc de ce fameux portail sud. Vous n'êtes pas sans savoir que l'aigle représente l'un des symboles des quatre évangélistes qui sont représentés autour du Seigneur. Et donc, où est-ce qu'il est ? Le voilà. L'aigle en soi, en tant qu'oiseau, est censé représenter Jean et Jésus montés au ciel. C'est-à-dire que lorsque les bâtisseurs du Moyen-Âge, les imagiers et leurs commanditaires représentent des oiseaux à cette époque-là, c'est pas vraiment pour la décoration et c'est encore moins pour représenter quelques notions d'écologie, de science ou de description de la nature. C'est essentiellement pour transmettre des symboles, pour transmettre un message, et on y reviendra un petit peu. Donc, à propos de cet aigle, il faut aussi s'imaginer qu'il était peint à l'époque. Donc voilà une reconstitution. Et les couleurs elles-mêmes sont symboliques. Lorsqu'on représente du bleu, de l'or, du rouge, c'est plus pour la valeur symbolique associée à chaque couleur que pour figurer exactement comment devait être l'oiseau en question. Voilà un petit zoom de ce fameux aigle de Saint Jean l'Évangéliste. Par ailleurs, tout à fait somptueusement représenté. Sous le porche, il y a également deux aigles dont je parlerai beaucoup moins. Ils sont du XVIe siècle. À titre là, tout à fait décoratif. Mais l'aigle de Saint Jean l'Évangéliste, on le retrouve également à l'intérieur de la cathédrale, cette fois-ci sous forme d'un vitrail. Et voilà, à droite, l'aigle en question, donc l'aigle royal. C'est un habitant des Alpes et des Pyrénées. Le terme de royal ne signifie pas forcément que c'est le roi des oiseaux. Dans le vocabulaire du Moyen-Âge, ça pourrait aussi bien être l'aigle real, real en anglais, autrement dit l'aigle véritable, le prototype de l'aigle. Il faut même se méfier des noms. En tout cas, le premier auteur qui a donné le nom de royal à l'aigle royal, c'est l'auteur de cet ouvrage dont je vais vous présenter ici l'édition originale, donc du XVIe siècle, 1555, à savoir Pierre Belon, pour ceux que ça intéresserait tout à l'heure. Donc, sur un des vitraux de la cathédrale, en l'occurrence la chapelle Fradet, vous retrouvez Saint Jean l'Évangéliste. Si je mets une petite voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà, coucou. Donc, Saint Jean l'Évangéliste. Et pour être bien sûr que c'est lui, il est associé donc à un aigle. Bon, qui en l'occurrence ressemble plus à une oie qu'à un aigle, mais là encore, ce n'est pas la figuration de l'oiseau qui compte, c'est sa symbolique, on va dire. Disons qu'il a quand même plus l'air d'un grand oiseau que d'un moineau, on va s'en contenter. À peu près le même type de figuration existe dans d'autres églises, Saint-Bonnet, et puis là j'ai pris l'église de Saint-Sauveur de Dinan, qui donc également à la fin du Moyen-Âge représente les choses un petit peu de la même façon. Faut que je contrôle ma clé. Voilà. Par ailleurs, ce fameux aigle, on le retrouve de façon plus discrète dans un autre vitrail, en l'occurrence celui de la chapelle Thuillier, si vous la repérez, où il y a également un aigle figuré dans des armoiries de l'un des héros, si je peux dire, figuré dans cette chapelle. Et puis donc, pour ce qui me préoccupe davantage, revoici l'aigle de Saint Jean l'Évangéliste caché derrière le personnage, mais il y est, voilà, il y est, et donc le saint qui est représenté dans le vitrail juste au-dessus, c'est donc bien Saint Jean l'Évangéliste, avec Saint Pierre par ailleurs, et Saint Jacques. Il y a encore un autre aigle. Après, ça devient un jeu de piste. Hein. Si vous parcourez la cathédrale, cherchez où il est, et bien, cette fois-ci, c'est dans la chapelle Jacques-Cœur. Alors, c'est moins ancien, Jacques-Cœur, forcément, mais si vous observez les macarons qui ornent les... Ah oui, alors, attends, il va falloir que je m'habitue, je vais plutôt faire comme ça. Il faut que je m'organise, j'ai que deux bras, et il faut que je tienne le micro. Cela dit, est-ce que vous avez vraiment... si je peux, non, je vais quand même me débrouiller comme ça. Voilà, il faut juste que je m'adapte à l'appareil. Donc, si on remonte dans les clés secondaires de la voûte, il y a des petits ronds, voilà, qu'on appelle des mascarons, et l'un d'entre eux représente un aigle. Voilà. Alors, pour faire la photo, j'ai utilisé un flash. Vous le verrez éventuellement moins bien en circulant avec la lumière ambiante. Mais donc, lui, il est tout à fait reconnaissable dans un style donc, qui est plus 15e et du coup plus figuratif. On retrouve encore un autre rapace, éventuellement un aigle, si vous voulez, dans un vitrail vers le fond de la cathédrale, où là, il s'agit d'évoquer ce brave Étienne qui a été torturé, dont le corps a été livré à l'appétit des bêtes féroces et notamment donc des rapaces qui fondent sur lui, mais bien entendu il va être préservé de ces bêtes sauvages. Il est en odeur de sainteté, bien sûr. Les rapaces en question, alors voilà, si vraiment vous vous y connaissez en oiseaux, vous pouvez toujours essayer de deviner l'espèce. On va dire que, d'après ce qu'il s'apprêtait à faire subir à ce pauvre Étienne, on va plutôt penser à des vautours qu'à des aigles. Hein, voilà, voilà. Et bon, j'aime bien faire quelques jeux de mots de temps en temps. Celui qui serait le plus approprié, ce serait donc le vautour moine. Bon, non, mais n'y voyez pas de mauvais esprit de ma part. Encore que vous aurez raison, mais il faudrait mieux me connaître. Il se trouve que le vautour moine est un vautour très rare en France, mais qui autrefois existait dans la région. Voilà. On ne peut pas en dire autant de tous les vautours, tout au moins on n'a pas de preuve de la présence de tous les vautours dans la région au Moyen-Âge, mais qu'il se trouve qu'il y a des ossements d'un vautour moine qui ont été découverts dans le département d'à côté au XIIe siècle, donc au temps de la reconstruction de la cathédrale. Voilà. Voilà un agrandissement de ce vitrail. Voilà. Cela dit, ça a beau ne pas être tout à fait représentatif, ça n'en est pas moins extrêmement esthétique. L'aigle. Donc, je vais abandonner le vautour. Pour revenir à l'aigle, c'est évidemment un symbole de puissance. On le retrouve également dans un angle de la tour nord. Alors, pour tout vous avouer, là, ce n'est pas moi qui ai fait la photo, puisque cet élément décoratif est totalement invisible depuis le sol, et je n'ai pas l'autorisation de grimper dans les échafaudages pour reprendre une photo. Mais vous pouvez, sur ce cliché, reconnaître aisément qu'il y a un grand rapace qui est en train d'attraper un héron, on est bien d'accord, hein. Donc le rapace est là, vous voyez la tête ici, et puis donc le héron. Voilà. Je vous ai mis un héron du plan d'eau à côté pour vous rappeler donc les deux participants. On peut s'étonner qu'un rapace capture, enfin qu'un aigle capture un héron. Les hérons volent assez rarement en milieu alpin et l'aigle va plutôt attraper des marmottes ou des lapins. Mais dans la fauconnerie qui était utilisée au Moyen-Âge, on dressait, non pas des aigles, parce que les aigles c'est un peu lourd, mais on dressait de grands faucons achetés à grand prix pour attraper des hérons. Parce que le héron et autres échassiers au Moyen-Âge, c'est un oiseau de prestige, tout à fait valorisé. Et donc, faire tuer un héron par un faucon plaisait beaucoup à ces seigneurs de la haute noblesse. Voilà, voilà. Par contre, je ne vous décrirai pas comment on dressait des faucons pour attraper un héron. Ça relève de la torture. L'aigle, donc, symbole de puissance, et puis, ben, c'est le roi. Alors, tout au moins, c'est le roi d'une partie des animaux. Alors, sur ce texte du XVe siècle, vous voyez ici l'opposition d'un aigle et d'un lion. Alors, l'histoire est assez marrante. Je fais un petit détour en quittant la cathédrale. Vous avez un renard qui s'est mis d'accord avec un petit oiseau, une hirondelle, pour disserter sur le lion et l'aigle en les incitant à se battre. Donc l'hirondelle ici incite l'aigle à se battre contre le lion et le renard incite le lion à se battre contre l'aigle. Autrement dit, le roi des animaux terrestres contre le roi des animaux des airs. Et puis, ben, les deux négocient, vertu qui se perd aujourd'hui, on dirait. Et l'aigle finit par dire au lion, faisons la paix, cessons d'écouter ces faucons conciliateurs et que chacun règne sur son monde. Et voilà une belle histoire. Je continue. Alors, il y a quelques lions dans la cathédrale. Par ailleurs, Marie de France, pour ceux qui connaissent, dans une de ses petites fables, a réuni sous forme d'un hybride de chauve-souris à la fois l'aigle et le lion, l'aigle symbolisant la France et le lion symbolisant l'Angleterre. Donc de symboles religieux, on arrive vite à des symboles politiques à l'époque. Mais ce qui m'intéresse davantage, justement, dans toute cette symbolique du Moyen-Âge, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Alors bien sûr, en première lecture, il y a les bons, la colombe, la blanche colombe, et puis le noir corbeau paré de tous les vices. Mais assez souvent, la symbolique est associée aux oiseaux au Moyen-Âge est assez ambivalente. Ils ont des qualités, mais aussi des défauts. Ils ont des défauts, mais aussi des qualités. Le Moyen-Âge, quoi qu'on en dise, c'est tout à fait être subtil. Alors par exemple, donc, l'aigle est associé à tout un tas de qualités. L'une de celles qui est la plus exotique, c'est que lorsque l'aigle a des oisillons, donc des petits aiglons, il les force à regarder le soleil. Ce que je vous déconseille fortement de faire, hein, ça vous enverrait directement chez un ophtalmo le lendemain, sans avoir de douleur, mais en ayant perdu beaucoup de votre vue. Donc, si les aiglons regardent le soleil, c'est que l'aigle peut les légitimer, s'il n'y arrive pas, l'aigle les rejette. Voilà. De sorte que l'aigle peut être considéré comme le roi de ses sujets, de ses petits, etc., mais finalement un roi assez orgueilleux et cruel. Voilà, voilà. Par ailleurs, ce n'est pas représenté sur cette image, mais il y a dans les marais un autre oiseau, la fouque, qui recueille les aiglons tombés du nid. De sorte que cette fouque, dont on ne sait pas exactement quel oiseau ça pouvait être, mais de sorte que cette fouque représente, symbolise la charité chrétienne, puisqu'elle recueille les petits rejetés et les élèves. Voilà, donc tout un tas d'histoires que l'on peut retrouver dans le vestiaire sculpté, dans les images, etc., etc. En l'occurrence, les oiseaux, on les représente depuis des siècles, même des millénaires, donc ça n'a pas commencé au Moyen-Âge. La plus vieille représentation d'un rapace, et même d'un oiseau, c'est en haut à gauche sur l'image, c'est un hibou, hein, visiblement, gratté dans l'ocre ou dans l'argile. Chauvet, ce qui veut dire que ce hibou doit avoir à peu près 30 000 ans. Rien que ça. Et puis en bas à gauche, une mosaïque à lunerie. En haut à droite, le réemploi d'un petit oiseau gravé durant l'Antiquité, mais qu'on a retrouvé dans un mur à Trevan, qu'on peut toujours voir, hein, c'est moi qui ai fait la photo. Et puis ici, petite évocation des somptueuses images de l'époque antique en Égypte. Au Moyen-Âge, ben, les oiseaux sont représentés de tout un tas de manières différentes. Donc, ici, une sculpture dans les armoiries, dans les blasons de l'histoire du Berry de Chaumont. Vous avez même deux armoiries dans la cathédrale, mais bon, c'est pas les rapaces, alors je passe assez vite, sur des parchemins, etc. etc. Et si vous voulez qu'on insiste un petit peu sur cet aspect historique, je pourrais vous donner les références qu'utilisaient essentiellement les gens du Moyen-Âge pour représenter ces oiseaux qu'ils n'avaient pas forcément observés par eux-mêmes, bien entendu. Ces figurations ont l'air relativement simples, mais à la même époque, enfin bon, 1503, allez, on est quand même presque encore au Moyen-Âge. Vous connaissez sans doute le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Et pour le coup, là, les oiseaux sont représentés d'une façon extrêmement réaliste. Alors vous reconnaîtrez facilement, donc, en haut à droite, un châtaigneraie, qui est rouge parce qu'il a enlevé une épine sur le Christ crucifié. Et un chardonneret, ça aime les chardons, donc forcément il avait été attiré par les épines de sa couronne. En bas à gauche, vous avez une huppe, etc., etc. Donc chaque oiseau a sa symbolique, plus ou moins marquée. Au Moyen-Âge, disons que les petits oiseaux, les passereaux, globalement symbolisent l'humilité. Voilà. Mais ils ont également leur symbolique, il ne faut pas croire. En l'occurrence, tous ces oiseaux cohabitent avec des gens passablement nus, le peintre ayant voulu signifier ce que l'on avait perdu avec le paradis terrestre. Par ailleurs, on peut retrouver des oiseaux dans les encyclopédies, il y en avait déjà à l'époque. Alors sur cette image d'un ouvrage extrêmement célèbre que j'ai vu une fois à Paris, on trouve donc là tout un tas d'oiseaux différents. Je n'ai pas pu m'acheter l'ouvrage, le prix n'était même pas indiqué. Quand le prix n'est pas indiqué, c'est que ça dépasse 100 ou 200 000 euros. En l'occurrence, là, ça devait atteindre le million. Voilà. Et on retrouve là-haut le pélican, le phénix, le paon, l'aigle, etc. etc. Donc, au Moyen-Âge, tout est religieux lorsque l'on veut figurer des animaux. Isidore de Séville en a nommé 60. Bon, on en connaît aujourd'hui à peu près 10 000 dans le monde. Hein. Le compte n'y est pas, mais bon, c'était déjà un bel effort. Les artistes, voire les auteurs d'encyclopédies, bon, pour tout avouer, n'y connaissaient pas grand-chose. Et leur source principale, ben, c'était d'autres livres écrits par des prédécesseurs, qui eux-mêmes s'étaient inspirés de prédécesseurs, qui eux-mêmes s'étaient inspirés de la Bible et de quelques ouvrages plus ou moins ésotériques. Donc ce qui compte au Moyen-Âge, ce n'est pas tellement de représenter la vie des animaux, mais de les associer à des symboles. Et pourquoi donc? Et bien parce que si l'on remonte... si l'on remonte aux sources du christianisme, disons en France, dans ce qu'on peut appeler la France à l'époque, l'Église est en train de s'imposer dans des régions où le paganisme est encore assez présent, voire une certaine forme de polythéisme. Il s'agit alors d'imposer l'idée d'un Dieu unique, mais qui reste proche des gens. Parce que si l'on coupe les gens de leur tradition, de ce monde d'animaux qu'ils connaissent parfois mieux que vous et moi, parce qu'ils vivent avec, si l'Église les sépare trop de ces histoires, elle aura du mal à s'imposer, elle va être en conflit avec ces traditions paysannes. Alors du coup, elle essaie plutôt d'absorber ces histoires, et donc de reprendre à son compte les histoires et les symboles associés aux animaux que les gens peuvent connaître. Et à partir de là, l'Église, en associant une qualité ou un défaut à chaque espèce, va permettre à celui qui entend ces histoires de se situer lui-même, pas tout à fait à l'image de Dieu, mais peut-être quand même mieux qu'une bête sauvage, etc. Et puis on se place également à mi-chemin entre donc, les monstres, les anges, entre ce qui fait peur, entre ce qui rassure, voilà, voilà. Donc il faut essayer de se représenter ce que les gens pouvaient ressentir en apprenant toutes ces histoires. Leur cosmogonie, leur façon d'envisager l'univers est très différente de la nôtre. Au Moyen-Âge, on n'a absolument pas l'idée que les humains et les animaux proviennent d'un ancêtre commun, comme ce que nous apprendra Darwin et ses prédécesseurs et la génétique par la suite. À l'époque, chaque espèce a été créée par Dieu, mais en plus, chaque espèce a été créée séparément. Mais par contre, il y a des correspondances entre ces animaux et par le caractère de tel ou tel animal, on peut se représenter son propre caractère et essayer d'en discuter. Alors par exemple, pour être plus concret, eh ben, les chouettes et les hiboux, je pense que vous voyez tout à fait ce que l'on va associer aux chouettes et aux hiboux. Ce sont des oiseaux de nuit, donc ils ont peur de voir la lumière, et la lumière est divine. Donc forcément, des oiseaux de nuit vont être mal vus au Moyen-Âge. Alors il y en a trois qu'il faut que je vous présente. La chouette hulotte, alors là c'est pas moi qui ai fait la photo, donc il faut quand même que je rende hommage à son auteur, qui est David Allemand, mais j'adore cette photo, voilà une chouette hulotte cachée dans un trou d'arbre. En l'occurrence, j'ai déjà observé des chouettes hulottes dans le jardin de l'archevêché, mais jamais à la cathédrale. Deuxième espèce, la chouette effraie, dont le nom rend probablement compte de sa façon de crier lorsqu'elle fait ça dans votre grenier. C'est sûr que c'est légèrement impressionnant. Alors la chouette effraie, là j'ai fait une photo dans la campagne, pas très loin d'ici, vous voyez qu'on la retrouve assez fidèlement représentée dans le carnet d'un auteur très célèbre pour ceux qui étudient l'art des cathédrales, en l'occurrence Villard de Haudecourt au XIIIe siècle. Et par ailleurs, j'en ai observé une fois dans la cathédrale qui était en train de se reposer en plein jour. J'espère que les cloches n'ont pas sonné lorsqu'elle y était. Parce qu'elle était quand même juste à côté. Et puis la troisième espèce, alors là j'en ai jamais vu à Bourges, mais c'est peut-être la moins rare de toutes, parce que c'est une toute petite chouette fort sympathique qu'on peut retrouver perchée au fait des vieilles maisons dans la campagne. Donc la chouette chevêche n'est pas trop rare aujourd'hui parce qu'elle sait manger un peu n'importe quoi suivant qu'elle habite dans des endroits où il y a un peu plus de vers de terre, ou un peu plus d'insectes, ou un peu plus de petites musaraignes, elle se débrouille. Son principal problème actuellement, c'est de trouver des endroits où nicher. Mais on la trouve également dans les représentations du Moyen-Âge. Voilà, par exemple ici, dans une marge à drôlerie d'un parchemin du XIVe siècle. Voilà, les toutes mignonnes. Et en l'occurrence, ici, vous avez donc les armes de France et d'Angleterre. Enfin, voilà, il y a toute une symbolique. Mais moi, ce que j'aime à retenir, c'est la représentation de cette petite chouette, voilà, que je trouve très chouette. Attention quand même, il faut se figurer que là, j'ai extrêmement zoomé sur les dessins. Donc, à force de zoomer dessus, on a l'impression qu'ils sont faits de façon très grossière. Mais si je pouvais vous montrer l'original, la chouette en question est toute petite, quoi. Et donc, voilà, elle finit par être très mignonne, cette petite chouette chevêche. La chouette d'Athéna, hein, par ailleurs, pour ceux qui ont une culture plus axé sur l'Antiquité. Et alors ces chouettes, donc, on les retrouve dans l'architecture des églises de la région. Ici, à l'entrée de l'église Saint-Martin... à l'entrée de l'église Saint-Martin de Véraud, donc une église du XIIe siècle, vous avez une petite chouette. Alors bon, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une chouette chevêche, mais en l'occurrence c'est une chouette, hein. Bon, voilà. Dans le département d'à côté, ici, on trouve une chouette avec son fameux masque en forme de cœur. qui est donc là assez finement représenté. On peut donc reconnaître une chouette effraie. Donc voilà, la chouette se retrouve de temps en temps dans l'architecture. Et moi j'y associe ce slogan, enfin ce slogan. Vous qui êtes dans la nuit, entrez vers la lumière de Dieu. Ça pourrait bien expliquer pourquoi les chouettes sont si fréquentes à l'entrée des églises, pas à l'intérieur, encore que sur ce chapiteau, mais plus souvent à l'extérieur des églises. Vous êtes, vous qui allez rentrer dans l'église, vous êtes encore dans la nuit, comme la chouette, et vous allez rentrer à l'intérieur de l'église vers la lumière de Dieu. Voilà. La symbolique est tout à fait claire. Et à la cathédrale alors, parce que je reprends mon sujet quand même. Eh bien, il y a des chouettes à la cathédrale. Alors bon, c'est dans le porche du portail nord. Elles ne sont pas en très bon état. Là, j'ai fait la photo à l'intérieur, donc du côté interne du porche. Je vais quand même zoomer dessus. Voici, voilà. Mais il y a toute une frise de petites chouettes ou de petits hiboux hein, qui parcourent l'arc complet. Mais bon, qui sont quand même relativement altérés. Mais qu'on soit d'accord, hein, vous en avez donc une ici, vous en avez une ici, vous en avez une ici, bon, qui a été décapitée, mais je ne pense pas à la Révolution. Vous avez les deux yeux, vous avez l'aigle, voilà, c'est mignon comme tout. Et alors, de l'autre côté, si l'on descend l'escalier du porche et qu'on se retourne, eh bien, il y a à nouveau une petite frise qui parcourt tout l'arc. Donc avec des petites chouettes, la tête vers le haut ici, et une autre série de petites chouettes tournées vers le haut, comme ça. Alors un petit zoom dessus. Bon, voilà, le temps les a quand même altérées, hein, ces pauvres chouettes. Du coup, je vais faire une petite infidélité à la cathédrale, j'espère que vous voudrez bien m'en excuser, mais je vous renvoie à la chapelle Saint-Lazare de Noyers-sur-Cher, qu'on voit de la route lorsqu'on prend l'axe de Bourges jusqu'à Tours. Et si vous allez vous approcher de cette très jolie petite chapelle, sur les deux portails latéraux, vous avez deux modillons qui chacun représentent un petit hibou. Ceux-là, ils ont à peu près la même époque, mais ils sont bien conservés et je les trouve absolument somptueux. Là, je vais prendre le temps de laisser cette image, parce que je l'adore. Bon, il faut dire que j'ai un peu retravaillé les images, puisque actuellement, ils sont un peu recouverts de toile d'araignée. Mais bon, toile d'araignée, ça s'enlève, hein. Il suffirait d'avoir une échelle, et voilà, ils sont quand même fort sympathiques. Donc, la chouette était mal vue. Eh bien, la photo, vous voyez, elle est en couleur jusque dans les années 1950. Les chouettes étaient tellement mal vues qu'on n'hésitait pas à les clouer aux portes des granges pour bien leur faire sentir tout le mal qu'on pensait d'eux. Et j'ai envie de vous mettre en parallèle un poème de Victor Hugo dans Les Contemplations. Je vous cite juste la fin. Elle est un peu polémique, mais bon, je vous le laisse apprécier, c'est Victor Hugo quand même. Chasseur sans but, bourreau sans yeux, vous clouez de vos mains mal sûres les hiboux au seuil des masures, et Christ sur la porte des cieux. Et tac. Au Moyen-Âge, je ne sais pas si on clouait les chouettes sur les granges, et il y a notamment quelqu'un qui faisait exception. Il faut forcément citer lorsqu'on parle des oiseaux au Moyen-Âge. C'est Saint François d'Assise. D'après la Genèse 1, on est censé prendre possession de la nature. Lisez dans la Bible la Genèse 2 et vous verrez une appréciation légèrement différente, comme quoi on ferait bien d'essayer d'être en harmonie avec la nature. Et cette deuxième option était donc privilégiée par Saint François d'Assise, qui prônait une fraternité avec toutes les créatures, puisqu'après tout, si elles ont été créées par Dieu, autant bien s'entendre avec elles, il n'a pas dû les faire pour nous torturer. Thomas d'Aquin, à l'époque où la cathédrale a été reconstruite, a également pris la défense de ces braves petits oiseaux. Il est défendu de se montrer cruel envers les animaux, comme tuer les oiseaux avec leurs petits. Alors, ce n'est pas tellement pour être un écologiste avant l'heure, c'est parce que Thomas d'Aquin considère... Oups, j'ai éclairé un truc qu'il fallait pas. Thomas d'Aquin considère que si l'on massacre les oiseaux, c'est qu'on pourrait bien aussi massacrer les autres hommes. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Je reviens à Jérôme Bosch. Lui aussi représentait une chouette et lui aussi, finalement, dans son idée d'un paradis perdu, associe la chouette plutôt à sa douceur. Voilà. Et si vous connaissez Dijon, eh bien, il y a à Dijon une chouette, alors peut-être un hibou en fait, mais qui est célèbre. Alors c'est une toute petite chouette ici, là vous voyez des gens qui sont en train de caresser la petite chouette hein, qui est dans la pierre. Alors elle date de la fin 15e, elle a été vandalisée en 2001 et refaite sur place en récupérant les morceaux. Bon, voilà, voilà. Vous voyez ici la pierre, et puis ici la même pierre caressée par des milliers de mains de touristes. Voilà, c'était avant la Covid. Mais bon, finalement, là, la chouette est valorisée. Hein. La chouette sert de porte-bonheur. Hein. Comme quoi, hein, suivant les époques, on l'associe bien à ce qu'on veut. Mais même dans le Berry, à l'époque où on clouait des chouettes, eh bien, une vieille dame, lorsque je faisais visiter la cathédrale, m'a raconté que pour sa grand-mère, qui vivait vers La Châtre, la chouette était annonciatrice de naissance. Tout à fait valorisée. Alors après, on peut essayer de reconstituer comment ces idées en viennent aux gens. Pour le Moyen-Âge, donc, la chouette vit la nuit, donc elle ne peut pas voir la lumière de Dieu, donc elle est dévalorisée.